Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Erings et Thibaut Van de Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Cinécast épisode 6. Bonjour Thibaut.
Et bonjour Guillaume, tu vas bien ?
Ça va bien, ça va bien. On démarre la semaine avec l'enregistrement de cette nouvelle émission. La semaine prochaine, c'est Star Wars. On en parlait la fois passée. Là, je suis vraiment très excité. On l'aura vu normalement dans une semaine tout
pile. Je me demande de quoi tu vas me parler quand on aura après qu'on ait vu Star Wars, parce que tu en parles tout le temps.
On arrêtera l'émission.
Très très excité.
On arrêtera l'émission.
Et donc j'espère que tu vas pas me faire une petite déprime après quand même.
C'est possible, ça dépend de la qualité. Ryan Johnson, je croise les doigts. Oui, mais d'ailleurs, en plus, la semaine prochaine, à cette heure-ci, on l'aura déjà vu. Donc peut-être qu'on va être déçus.
On sortira de la salle.
À peine de la salle. On fera pas de tweet. On garde ça pour l'émission. D'ailleurs, on vous le dit tout de suite.
On ne pourra rien dire, de toute façon.
On vous le dit tout de suite. Comme vous le savez, suivez-nous sur Facebook, facebook.com/cinecastbe, Twitter, @cinecastbe. Et surtout, partagez, abonnez-vous sur SoundCloud, parce que comme ça, vous restez au courant. À chaque fois qu'il y a une émission, vous recevez une notification et ça nous aide à grandir. Voilà.
D'accord.
C'est pas mal.
Mais oui, ça me
Mais
semble mon programme.
Surtout très important, restez avec nous parce qu'il y a deux choses assez importantes qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Déjà la semaine prochaine pour Star Wars, on en parlait un petit peu, on va faire une émission spéciale.
Ouais.
En compagnie de... Tu peux présenter.
Ah, de Kamal.
De Kamal.
De Kamal de la Zone Geek.
De la Zone Geek.
Bah oui, on va faire une petite spéciale Star Wars, donc on va... Alors on parlera du film... plusieurs fois, deux fois exactement.
Oui.
Une première fois dans le podcast hebdomadaire.
Classique,
comme
le mardi.
Hein, le mardi.
Ça dépend de l'embargo. C'est quand l'embargo ?
Il termine à mardi à 18h. Donc on pourra.
18h live alors. Hein.
Voilà.
Ce sera live à 18h.
Boum !
Comme
on pourra balancer le podcast à 18h.
Mardi soir, tu fais ta cuisine avec le podcast.
Exactement.
Quoi. Et t'es bien.
C'est bien ça.
Moi, c'est ce que je
c'est
fais.
C'est bien. Mais oui, excellente idée. Et donc on fera une spéciale Star Wars où on va parler plus amplement du film, mais pas que du 8ème épisode. Hein. On parlera aussi de.
Non.
Du futur de la saga et d'autres choses. Et celui-là, on devrait le balancer dans le week-end, à mon avis, histoire de pas se marcher sur les pieds.
Oui.
Parce que tout le monde va balancer sa critique assez rapidement. Donc je pense qu'on va faire l'émission complète spéciale Star Wars. À mon avis, on la diffusera samedi, dimanche, quelque chose comme ça.
Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que forcément, l'émission de mardi, donc le Cinécast, il y aura une critique du nouveau Star Wars, sans spoiler. Mais l'émission du week-end, là, on va parler du film vraiment... en profondeur, quoi.
Détails,
hein,
ouais.
Donc, si vous n'avez pas encore vu Star Wars, il faudra juste attendre un petit peu avant d'écouter cette émission-là, à part si vous en foutez des spoilers. Mais bon, voilà, sachez-le, quand vous voyez l'émission qui sera live le week-end prochain, du coup, pas celui-ci, le week-end d'après, eh ben, sachez qu'il ne faut pas cliquer dessus si vous n'avez pas vu Star Wars et qu'il faut le sauver et attendre un petit peu pour aller l'écouter.
Ouais.
Pour pas se
mais on a une autre émission spéciale.
On a une autre émission spéciale, et ça, c'est avant. Donc, c'est avant même Star Wars. C'est ce week-end, on sera au Festival International de la Comédie de Liège.
Mais oui. Et on sera pas tout seul non plus.
Non, on sera pas tout seul, je te laisse le dire.
Allez, on aura un petit invité.
Je sais pas si ça donne bien, mais c'est pas grave. On a un invité.
À mon avis, il y a juste le micro qui doit trembler et c'est tout.
Ok.
On a un invité et il s'appelle...
Gérard Darmon.
Voilà.
Et oui.
La grosse voix Gérard Darmon qui sera dans l'émission.
Et oui, non, on va faire une petite interview avec Gérard Darmon.
Oui.
À Troyes, pépère, à Liège. Il est le président du jury
tout
de
à
la
fait.
Compétition officielle. Donc voilà, on va passer un petit temps avec lui.
Et n'hésitez pas, vu que vous êtes là depuis le début, si vous avez des questions pour Gérard, faites péter.
Ah oui, c'est le moment,
hein. Et nous, éventuellement, bah, on les transmettra. Soyez bon enfant, hein, s'il vous plaît.
C'est le moment. Mais oui, et normalement, on aura vu au moins trois films de la compétition, ça c'est sûr et certain. On va essayer de voir le quatrième maintenant.
Oui.
Mais donc voilà, on pourra parler un peu de ce qu'il y a.
Et vu ce qu'on a vu, il y a déjà de quoi dire.
Oui.
Il y a déjà, on peut en parler un petit peu.
Il y a déjà
quoi.
Matière.
Il y a déjà de quoi dire, ça se dit, ça c'est pas.
Non, ça ne se dit pas.
Ça ne se dit pas, comme d'habitude, Guillaume apprend le français.
Il y a matière.
Tous les mardis, quoi.
Ouais.
Oui. Mais d'ailleurs, je pense que le film de Michel Larocque, c'est pas en compétition.
Non.
Non.
Ah, mais oui, c'est vrai. Donc,
c'est hors compétition.
Parler, en fait.
Oui, on en parlera, parce que j'ai rien
à
voir. Mais...
On a vu le film d'ouverture, brillantissime, de Michel Larocque. Qui
n'est pas brillant.
Qui ne porte pas du tout son
non.
titre, hein, qui ne le porte pas bien.
Je vous avoue que ça va être délicat d'en parler beaucoup avec Gérard.
Oui, oui, ça va être très délicat. Bon, après, il a un second rôle, voire troisième rôle, enfin,
oui,
on va dire un second rôle. Donc c'est pas hyper gênant non plus, mais le film est très très loin d'être une réussite.
Malheureusement.
Bah heureusement pour lui, c'est peut-être un des meilleurs dans le film, c'est lui. Attention, oui. Ils sont pas, il est pas bon non plus, mais c'est,
bon,
c'est
il loin correct, d'être. Voilà, il est correct. C'est ça. Hein, on si va pas dois, non plus.
Pour paraphraser Thibaut, si tu dois sauver quelqu'un, tu sauves Gérard. Quoi.
Oui, clairement. Voilà. Et je ne dis pas ça parce qu'on va le rencontrer, mais c'est clairement l'élément le moins pire du film. Hein.
Oui.
Et peut-être qu'Admirad par moment, je dis bien par moment, hein. Mais sinon, bon bref, on en reviendra, on reviendra dessus on plus longuement oui. Au moment du podcast à Liège.
Ne fût-ce que donner le programme aussi de cette émission-ci.
Ah oui, parce qu'on parle, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Là.
Vous écoutez, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font nouveau? On ne sait pas de quoi ils vont parler. Restez avec nous, parce que cette semaine, je peux
très
vous jurer
choses.
Qu'il y a du lourd. Quoi. Sur tous les films dont on va parler, il y en a ben, j'ai tous envie de les voir. Déjà un, donc c'est déjà quelque chose...
Et il n'y en a aucun qui est très très mauvais.
Ah,
enfin,
voilà.
Il n'y en a aucun qui est vraiment mauvais. Qui...
Attends,
oui,
on n'a pas encore parcouru le listing de la semaine.
Non, mais je tease.
Tu teases déjà.
On a des bonnes choses à dire cette semaine, et oui.
Oui, oui, et on a surtout des choses très douces à dire. Parce que nous allons parler de Paddington 2.
Mais oui.
Le retour du nounours en veston à pluie. Il faut savoir que si tu portes un anorak, en général, c'est pas très bon signe, donc je sais pas... Tu vois, un mec avec un anorak en rue,
Donc tu veux qu'on fasse un débat sur le beau temps et la pluie?
Non, c'est pas ça, mais si tu vois un mec dans une gare avec un anorak, tu vas pas penser qu'il est un petit nounours gentil, tu vois ce que je veux dire? Avec tous les... Ok, soit...
Tu m'as perdu,
Guillaume. Non, mais voilà, je suis en train d'essayer de faire une allusion à tous les scandales sexuels.
Ah, d'accord,
mais
c'est
oui,
ça.
Mais oui, tu vois...
Dans ta tête, ça avait l'air beaucoup mieux que quand tu le disais. Hein.
Oui, peut-être. Bon, ben voilà.
Soit.
Ça arrive.
Passons.
On va recommencer. Non, deuxième film, Le Crime de l'Orient Express, une nouvelle adaptation du film, adaptée par Kenneth Branagh cette fois-ci.
Oui. Qu'on a vu ce week-end. J'ai vu que Harry Potter 2 était passé. Et d'ailleurs, mon père l'a regardé.
On l'a vu ce week-end ?
Non.
Ah, t'as vu Kenneth ce week-end ?
Mais Harry Potter 2 est passé à la télévision.
Oui. Il joue encore quel professeur ? Le nom du professeur ?
Gilderoy Lockhart.
Lockhart, c'est ça, tout à fait.
Celui qui s'attribue les mérites d'autres. Bref.
On continue le programme. Troisième film de la semaine, et ça, c'est pas des moindres. On a fait un concours et on va vous donner le gagnant dès demain. C'est Santa et compagnie, le nouveau film d'Alain Chabat.
Sacré Alain.
On a Suburbicon, fait par George Clooney.
Suburbicon. Non, ils disent pas Suburbicon.
Suburbicon.
Ils disent Suburbicon.
Suburbicon.
Yeah.
Suburbicon. Ok, c'est
Suburbicon.
Bon.
George Clooney.
De George Clooney, le monsieur Nespresso, qui est rejoint par son ami Matt Damon. Et Julianne Moore, si je me trompe
pas. I'm fucking Matt Damon.
She's fucking Matt Damon. Ok. Ouais. Et oui, je vois très bien ça. Ça, j'ai la référence.
Ah,
j'avais pas Matthew Shidid, mais j'avais celle-là. et puis, on va aussi parler de Tueur aussi. C'est dans le programme. On a 5 films, donc on va essayer de ne pas prendre trop de temps sur les films. Mais on va parler de Tueur, puisque c'est un film belge qui sort cette semaine aussi et qui est partout dans la presse. Et à juste titre, on va en parler après avec toi, Thibault.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Pourquoi et tu vas nous expliquer tout ça. On commence comme chaque semaine par notre ami le box-office. Je mets l'un du micro parce que je suis trop fort. C'est donc toujours en première, en tête de la liste Thor Ragnarok. Mais... Il est tout le temps là.
Attends, avant d'aller plus amplement dans le détail,
disclaimer.
On va te dire que... Oui, disclaimer.
Oui, vraiment.
Nous n'avons toujours pas de chiffres pour Justice League. Ce qui veut dire une simple et bonne chose... C'est que les chiffres ne sont pas bons. Et donc Warner ne les communique pas.
Warner n'a pas communiqué les chiffres,
donc,
en tout cas pour la Belgique.
Voilà, donc j'imagine qu'il est dans le top 5, mais ça doit être très en deçà de ce qu'ils espèrent, et donc ils disent rien dessus.
Ils veulent garder les chiffres pour eux.
Bah oui, je comprends.
Et donc, parce que oui, en effet, si, imaginons que Justice League n'ait pas dépassé Thor, alors que Thor est là depuis 5 semaines maintenant.
À mon avis, il est devant, mais...
Oui, cette semaine-ci, oui, mais la semaine passée, quand il est sorti, je suis pas sûr. Donc, du coup, en plus, c'était... Voilà. Donc, Thor Ragnarok, le premier film de la semaine en Belgique.
Encore et
pour
toujours.
Sa cinquième semaine, il va bientôt atteindre les 2 millions en Belgique. Ça fonctionne bien. J'ai regardé, d'ailleurs, au box-office international, il est à 900 millions maintenant, donc il va bientôt atteindre le milliard.
Bientôt.
Doucement, mais sûrement. Daddy's Home 2, film que tu avais bien aimé, sympathique,
oui,
rigolo.
Oui, c'était pas mal.
Qui est deuxième, mais de très près, hein, juste derrière Thor.
Alors, c'était sa semaine de sortie. Hein.
C'est sa semaine de sortie, bien sûr. On a The Foreigner, qui est toujours là dans le top 3 pour sa troisième semaine, qui n'a pas fait un...
Il se maintient à troisième depuis 3 semaines, lui. Hein.
Oui, c'est pas miraculeux, mais bon, il fait son argent, tranquillement, mais sûrement. A Beautiful Day, qui est toujours là, qui a bien baissé par rapport à la semaine passée, hein, mais qui lui aussi fait un score assez honorable en Belgique pour un film de cette taille-là, je le répète.
Ouais.
Et cinquième de la semaine, Blade Runner, qui est là dans le top 5 pour sa huitième semaine d'affilée.
Continuez.
Il continue. Bah, bien sûr, il est loin de Thor, etc. En termes de valeur totale, puisqu'il est à 1,3 million. Mais bon, ça reste quand même un succès, puisque quand un film tient pendant 8 semaines dans le top 5, c'est qu'en général, il y a un bon bouche à oreille et que les gens continuent d'aller le voir. Donc voilà. Ça, c'était pour le box-office. Mais ça va vite changer tout ça, hein, parce que quand on regarde Paddington 2, Le Crime de l'Ant-Express, Santa et compagnie, Suburbicon, Star Wars la semaine prochaine. Bon, en gros, le top 5 va totalement changer dans les prochains jours, ça c'est sûr.
Oui.
Un peu d'air frais.
Totalement, peut-être pas totalement, mais oui, il y a des choses qui vont bien bouger, ça c'est sûr.
Et d'ailleurs, on peut tout de suite commencer par une devinette. Hein. Je pense que le petit ours Paddington va faire du bien au box-office, puisque le premier avait très bien fonctionné. Et à juste titre, il était très chouette. J'ai vu le premier il n'y a pas longtemps, en guise de, entre guillemets, rattrapage. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc c'était un film de Noël qui m'a rempli le cœur de joie.
Ouh.
J'ai fait de beaux rêves après
ça. Oh là là.
Ah oui.
Oh, c'est mignon.
C'était sympathique.
Ah oui.
Très attachant.
Ah, t'es comme ça. Bah, c'est bien.
Comme ça.
Mais t'as raison, parce que... Alors, enfin, le premier Paddington, j'avais trouvé ça sympa, mais c'était pas trop mon truc. Donc voilà, honnêtement, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et en fait, j'en ai quasiment aucun souvenir. Carrément, ouais.
Ah bon ?
Même si, je me souviens bien de la scène où les deux ours qu'il adopte le sauvent, hein, dans la fameuse scène dans l'eau avec le pont. Machin, ça je m'en souvenais. Et elle repasse d'ailleurs dans le 2. Mais voilà, le 1 ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, même si je l'avais trouvé sympathique au demeurant, hein, là, c'est pas la question, mais voilà. Ici, je suis très enthousiaste.
Ah !
Oui, ça m'a beaucoup plu.
Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis entre le premier et le deuxième ?
C'est une bonne question.
Ah.
Parce que, comme je te dis, j'ai pas vraiment de souvenir du premier, donc je saurais pas te pointer un élément qui a fait que voilà, le film, je suis passé un peu à côté. Mais ici, non, je sais pas. La sauce a pris tout de suite, et donc j'étais vraiment très enthousiaste. Faut dire que Paddington, déjà, c'est un personnage hyper attachant.
Mm-hmm.
C'est ce petit nounours qui est ami avec tout le monde dans son quartier, tout le monde l'aime bien, il est hyper gentil, voilà. Il est assez maladroit. Enfin voilà, des traits de caractère qui font qu'il a une bonhomie et une bonne humeur qui sont contagieux.
Et il est surtout aussi très bien doublé en français, je trouve, par Guillaume Gallienne, personnellement. Moi, en tout cas, dans le premier, j'ai vraiment bien aimé son doublage. Je sais pas si dans le 2, c'est toujours aussi bon, mais...
Mais je l'ai vu en VO.
Ah, d'accord.
J'avais le choix.
D'accord.
VF ou VO. Et non, j'avais envie d'entendre la voix de Ben Whishaw.
Ah oui, mais elle est bien aussi, c'est ça. Mais je veux dire...
Oui, non, le doublage est bien, oui.
Mais en français, le doublage est aussi très très bon. En tout cas, bon, le premier, j'ai pas vu le deuxième, mais c'est la même personne, donc je suppose que c'est bien, parce que la voix de Guillaume Gallienne est très douce. C'est une voix très... aussi une voix douce, voilà, j'ai pas trop de manière de le dire, très mielleuse, comme ça. Et donc, ça allait bien.
Ouais, je pense que j'avais vu le premier en français, pourtant. Mm-hmm. Mais les films d'animation doublés, ça ne me dérange pas. Ici, il y a juste un personnage d'animation, donc je t'avoue que j'avais pas trop envie de voir tous les autres anglais... avec des accents français. J'ai évité. Mais oui, effectivement, je pense que Guillaume Gallienne fait le boulot.
Et il y avait un point qui n'était pas super bien fait dans le premier, c'était la menace, entre guillemets, dans le film, la méchante, je sais pas qui était interprétée, Nicole Kidman peut-être.
C'était Nicole Kidman.
Oui, Nicole Kidman.
Oui, juste.
Qui était assez moyen, un peu anecdotique, en fait, cette espèce de méchante qui veut la peau de Paddington. Est-ce que dans celui-ci, ils ont réussi à trouver un antagoniste assez sympathique, assez...
Mais en fait, c'est Hugh Grant qui fait le méchant. Un rôle très, très british. Mais en même temps, ce film transpire le british de partout. Hein. Ce qui donne beaucoup de charme au film, hein, soit dit en passant. Mais donc, ouais, Hugh Grant, il fait le mec qui est un peu... Il fait l'acteur raté, tu vois. Il a eu une belle carrière au théâtre.
Mm-hmm.
Oui, d'accord. Je vois exactement ce que tu penses.
C'est pas un acteur raté, mais c'est juste qu'il a eu, il a eu une carrière quand même...
Il a eu des hauts.
Il a fait des choses, quoi.
Et depuis, il a quelques bas.
Depuis...
Mais soit. Effectivement. Tout ça pour dire qu'il joue un acteur qui est vraiment des hauts. Et puis là, pour l'instant, le truc pour lequel il est le plus connu, c'est de la bouffe pour chien, quoi.
Une pub, quoi.
Ouais.
Mm-hmm.
Et il joue un chien.
Ah oui, mais typique.
Avec un déguisement, tu vois.
Typiquement british.
Ouais, le truc hyper ridicule. Mm-hmm. Donc le mec, il est vraiment au fond du trou.
Exagéré à fond, enfin, c'est un film de gosse, quoi.
Ah, mais oui, mais complètement. Voilà. Tout est dans l'exagération.
Oui.
Mais c'est vraiment, ça rappelle les films de notre enfance. En fait, toutes les situations sont complètement rocambolesques et dont en vrai, ça serait impossible tout ça.
Oui, mais bah, déjà parler à un ours.
Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, même si c'était un mot, mais ou une autre personne, à peu près bien tout sûr. Ce qui se passe dans le film, rien ne serait possible. Mais c'est cette.
On se laisse porter par le rêve, par l'imagination.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On est porté par l'imaginaire. Il y a une espèce de grandiloquence qui font que tout ça fonctionne. En fait, c'est vraiment le film d'aventure typique de quand on était gosse, quoi. Le film de Noël typique. Moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses, que ce soit, même si c'est un peu différent, mais d'une certaine façon, ça m'a un peu rappelé les mamans, j'ai raté l'avion, ce genre de truc, tu vois. Donc, vraiment, ouais. Ah oui, très bon souvenir. Et puis, il y a ce ton évidemment très léger parce qu'il faut que ça plaise aux enfants, mais ça plaît aussi aux adultes. Donc tout ça fonctionne très bien. Il y a le côté, je l'ai dit, il y a le côté british que je pense on aime tous ou presque. Donc ça a ce petit côté aussi un peu, je sais pas, c'est magique, mais tu sais, c'est un charme, quoi.
C'est le film pantouflard où t'as envie de te mettre dans ton canapé avec une bonne petite couette, une bonne petite tasse de thé ou un chocolat chaud.
Exactement.
Et tu te le pètes, et ouais. Là, c'est bien, quoi.
Ouais, et il a des super personnages. Il y a Brendan Gleeson qui joue un prisonnier. Oui, parce que Paddington, c'est pas vraiment un spoiler, mais parce qu'il passe une bonne partie du film à cet endroit-là, il va en prison, le pauvre.
Ah,
mais oui.
Original pour un petit ours mignon.
Ben ouais.
En anorak.
Mais il va essayer de révolutionner les choses. C'est un petit gentil, donc.
Oui, il veut changer voilà. Le monde avec des tartines.
Exactement. Oui. À la marmelade.
À la marmelade.
mais ouais. Franchement, bon, je sais pas si ça s'entend, mais même quand j'en parle, j'ai le sourire aux lèvres. Vraiment, oui, ça m'a beaucoup plu ce film.
On a tous les deux le grand sourire.
Voilà, je suis retombé en enfance.
C'est tout à fait.
Exactement.
On parlait de ça un peu la semaine passée, t'avais beaucoup rigolé quand je disais qu'il y a pas mal de films maintenant pour les enfants où c'est des pingouins qui font du rap et des trucs comme ça, un peu, tu sais, dans l'exagération, dans l'espèce de branchitude des dessins animés. Et là, par contre, c'est vraiment le genre de dessin animé totalement inoffensif que vous pouvez les voir en famille, avec un cousin ou quoi que ce soit, et vous allez passer un très bon moment parce que c'est attendrissant. Et,
Mais oui, et en plus, il essaie pas de surfer sur une vague moderne ou autre, oui, tu vois. Il est là exactement où on l'attend, dans le genre qu'on l'attend, avec le type d'humour qu'on attend. Le ton, c'est exactement ce qu'on attend aussi.
Oui.
C'est plus classique, c'est vrai, hein, c'est peut-être moins original, mais c'est osé et c'est réussi. Et je trouve que les effets spéciaux, surtout par rapport à l'ours, sont vraiment très réussis.
On y croit.
Ouais, j'ai cru du début à la fin. J'étais avec Paddington. On ouais, l'aime cet ours.
C'est ça, parce que dans le premier, moi, au tout début, j'étais un peu les effets spéciaux parce que ça se passe en fait.
T'es un peu dubitatif.
Non, quoi. Ça se passe au Pérou et donc tout est en effet digital, un peu vraiment comme un Pixar, quoi. Et puis en un coup, hop, on transitionne avec des vraies personnes et la vraie vie. Et là, t'as un petit temps d'adaptation, mais une fois que l'histoire démarre, là, tu es directement pris dedans et ça va très vite. Donc voilà.
Ouais.
Paddington à voir.
Ouais, validé par Cinécast.
Validé, boum, bam, le cachet. Bah voilà, c'est bien, ça fait plaisir de parler d'un film comme ça pour démarrer. Ouais.
C'est vrai qu'on démarre pas souvent avec des films mais qu'on a vraiment aimé. Enfin, si, en général, on parle souvent du.
Mais c'est pas ça, on a
des films qu'on aime bien en début, mais.
Mais non, mais c'est ça qu'on dit aussi, c'est que les propositions au cinéma, chaque semaine, c'est souvent des films d'action, des films de super-héros, des films aussi non dramatiques, éventuellement des reportages, documentaires ou autres. Et puis de temps en temps, quand t'as une espèce de. Voilà, des comédies françaises, et de temps en temps, t'as un petit truc comme ça, très classique, très, très british, qui fait plaisir, et voilà. On déguste, on prend.
Ouais. Mais soyez rassurés, chers auditeurs, nous avons encore des bonnes choses pour la fin.
Bien sûr, bien sûr. Bah oui, on a dit, tout est bon cette semaine. Il n'y a rien à jeter.
Non, il n'y a rien à jeter.
Il n'y a rien à jeter. Il y en a qui font.
Tout n'est pas parfait.
Voilà. Il y en a qui font acheter en Blu-ray et mettre dans un cadre.
Comme le prochain, mais.
Non, comme le prochain. Mais on va
non, mais après. Je veux dire, oui, on en parlera après, mais on a des choses à reprocher à certains films, mais il n'y a rien qui est vraiment complètement mauvais.
Il n'y a rien que vous allez regretter si vous allez le voir au cinéma en disant oh putain, pourquoi j'ai été voir ce film.
A priori, non.
A priori, non. Voilà, c'est pas ce genre de semaine.
Ouais.
Donc du coup, bah, on a de la chance, merci Star Wars, parce que c'est à cause de ça qu'il y a tous ces films-là qui sortent maintenant, parce qu'ils savent qu'après, c'est fini.
Ouais, bien que, pour la plupart, ils pourraient survivre face à Star Wars.
Ah oui,
Wars,
ils vont rester deuxième.
Paddington et Santa, ça fonctionne sans Star Wars. C'est pas le même public, hein.
Non, c'est pas le même public, mais je veux dire...
Enfin,
tu es un ménage, d'accord ? Tu as des enfants. Attention, on change de débat. Tu es un ménage, tu as des enfants, d'accord ? Tu dois aller au cinéma. Tes enfants veulent sans doute aller voir Star Wars. Tu dois payer déjà, boum, pour tous les enfants, y compris toi-même, ton ticket de cinéma, ton popcorn, ton coca, ton bazar. Ça te fait déjà 50 boules ou 40 boules en fonction du nombre d'enfants que tu as avec toi. Après, ils te disent « Oh, je vais aller voir Paddington 2 et je vais voir Santa Company. » Donc ça veut dire que tu dois dépenser 150-200 euros de cinéma en un mois, c'est quand même beaucoup. Donc je pense que voilà, il va y avoir un tri qui va se faire, un tri un peu naturel, mais je pense que Paddington et Star Wars doivent pas trop s'inquiéter.
Non.
C'est plutôt le troisième qui, moi, me fait un peu plus peur. Même si je pense que le film est bon, on en parle après. Mais...
Oui, on va.
Ok, next. On va parler maintenant des récompenses, puisque, comme vous le savez, c'est la saison, hein, il fait froid et tout. Donc,
ça commence.
Ça commence à juger sec à Hollywood. Et donc, il y a eu les Critics Film Awards, ou ouais. Film Critics Awards, comme vous voulez, qui ont déjà un peu fait le tri dans les sélections de cette année et qui ont déjà donc, clamé plusieurs films dont on va parler tout de suite.
Bah, c'est un peu le pendant des Golden Globes, en fait, parce que les Golden Globes, c'est donc la presse, enfin des, c'est les critiques étrangers qui sont à Los Angeles qui votent.
Mmh.
Ici, je pense que c'est l'association de critiques de Los Angeles, évidemment, c'est là que tout se passe, qui se charge de ça.
Oui.
Donc voilà, ça, c'est vraiment le pendant des Golden Globes. Ce sont les journalistes qui disent leur préférence de l'année.
Tout à fait. Et ils ont presque unanimement mis deux films en évidence, dont tu as vu, mais qui sont pas encore sortis, qui
j'ai
sortiront
vu les deux, ils sortiront
début d'année prochaine.
Alors pour un, il sortira fin janvier, je pense, mi-janvier, fin janvier, ou en février, je ne sais plus. Et l'autre, il sera plutôt février, mars, si pas plus tard.
Oui.
Parce qu'il se fait que un des deux, qui est le grand gagnant en fait, s'appelle Call Me By Your Name. S'il récolte pas mal de récompenses, peut-être que Sony va un peu reconsidérer la chose et lui offrir une vraie sortie. Mais a priori, ça fait... Parce que le film a été projeté pour la première fois à Berlin, hein, donc en février l'année dernière. Et depuis, il est sorti dans quelques salles aux États-Unis. Il fonctionne très moyennement, mais il n'y a pas d'engouement qui fait que...
Bah, c'est un film à cérémonie, non ? Mais
chaque fois qu'il passe en festival, il cartonne.
Oui, voilà,
en fait.
C'est un film à cérémonie.
Et le truc, c'est que comme il a été projeté pour la première fois très tôt, Berlin, c'est beaucoup trop tôt pour la saison des récompenses,
oui.
C'est un peu compliqué de vendre ce film, tu vois. Donc là, je pense qu'il va quand même engranger quelques belles récompenses, et à mon avis, les distributeurs européens vont le sortir de manière un peu plus correcte par la suite. Mm-hmm. Ce que je lui souhaite, parce que le film est vraiment très bon. Ça parle d'amour hein, entre un adolescent et un visiteur américain qui vient rendre
deux
visite
hommes,
à sa famille. Oui, deux hommes.
Deux
oui,
hommes
un amour homosexuel, effectivement. Qui offre une très belle scène qui vous donnera envie de manger des pêches. Je n'en dis pas plus, mais on en reparlera.
T'es en train de mettre des images dans ma
tête. Tu peux t'imaginer à peu près tout ce que
Sauf
tu veux.
Sauf le film qu'on a vu ce matin.
À mon avis, ce que tu imagines, c'est vrai.
D'accord.
Donc voilà, je n'en...
Moi j'imagine deux hommes nus dans un lit avec des pêches.
Non, pas à ce point-là. Mais enfin, bref.
Ou alors ils vont.
Non, non on arrête là. On arrête là.
D'accord.
Je n'en dis pas plus. Mais non, donc au-delà du fait que ce soit un amour homosexuel, c'est une histoire d'amour avant tout. Très très bien traitée par Luca Guadagnino, son nom m'échappe à chaque fois, qui a fait le remake de La Piscine il y a deux ans.
Dans la piscine. Non, Luca Guadagnino.
Guadagnino, pardon.
Oui, c'est ça, voilà,
oui. J'étais presque.
C'est pas grave.
Oui, il a fait le remake de La piscine avec. Il y avait Ralph Fiennes, il y avait Tilda Swinton et Matthias Kuhnertz.
Des petits acteurs.
Quoi. Et l'actrice de Fifty Shades of Grey.
Des petits acteurs.
Petit casting.
Oui, oui.
Bon, le film n'était pas une grande réussite, mais voilà. Et il va faire un remake de Suspiria aussi, normalement, l'année prochaine ou dans deux ans, je ne sais pas exactement. On verra bien. Bref, Call Me By Your Name.
C'est donc un film
gagnant,
typiquement produit pour les récompenses. Quoi. S'il a été mis dans un placard pendant un an,
je sais pas. Attendre. Je sais pas parce que non, justement, c'était casse-gueule. Hein. Le mettre à Berlin et puis pour espérer avoir des récompenses en fin d'année, enfin quasiment un an après.
J'ai
c'était quand même couillu. Hein.
J'ai vu qu'il
et c'était pas gagné du tout.
Il est à Sundance aussi, donc il a tourné. Quoi, hein.
Oui, c'est pas étonnant, oui. Mais voilà, et Call Me By Your Name était un peu le grand gagnant.
Et deuxième grand gagnant, qui moi personnellement c'est le film que j'attends le plus de 2018.
Ah oui, le plus carrément. Boum.
Il y en a d'autres sans doute hein, dans la liste que j'ai pas encore vu aller dans la liste et que peut-être que quand je vais les voir, je vais dire ah oui.
Spielberg sort deux films l'année prochaine, donc déjà c'est vrai trop top de ta liste.
Non, mais Spielberg, très honnêtement, j'adore Spielberg, je suis fanat de Spielberg, mais le problème avec Spielberg,
attention,
oui, il y a un
dis
problème.
Pas du mal de Steven.
Non, mais je trouve que c'est
tu voilà. Te tais.
Il alors, baisse de forme, c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Quoi ?
Il baisse de forme.
Spielberg baisse de forme.
Oui,
tu es fou, mon pauvre.
Parce que non, mais c'est pas ça.
Tu es fou.
Je suis moi. Ah non, non, c'est ça que je vais dire. Voilà, je m'identifie moi à ces nouveaux projets. Voilà. Donc c'est pas qu'il baisse de forme, c'est que selon moi, pour moi.
Quelle jolie phrase pour dire de si vilaines choses.
Pour moi, spectateur, je commence à être de moins en moins. Mes goûts commence à de moins en moins in tune avec Steven Spielberg.
Oh là là là, là triste, triste.
Bon, je n'attends pas Ready Player One avec beaucoup d'impatience.
Bah, allez, c'est le film que j'attends le plus depuis 3 ans.
Mais j'ai pas lu le bouquin, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part que j'ai vu que c'est une feste à la culture rétro et à la culture pop, quoi.
Oui.
C'est ça.
Oui, mais bon, soit on s'égare, ouais. On s'égare.
Je vois des yeux, mais dire, assassin.
Oui, oui, je suis outré.
De Shape of Water, de Guillermo del Toro.
De Guillermo del Toro, le film.
Une référence.
Oui.
Que j'attends, tu l'as vu, mais moi j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience parce que j'adore l'univers de Guillermo del Toro, son mélange du fantastique avec des récits souvent très dramatiques. Moi, il m'a à chaque fois avec ça.
Ben, tu as raison, parce que c'est excellent.
Voilà.
Vraiment, c'est un conte fantastique. Qui fait d'une certaine façon, comme Call Me By Your Name, fait référence à un cinéma d'antan, il le fait bien. Shape of Water, c'est un peu la même chose, quoi. C'est du cinéma fantastique pur jus, avec une direction artistique dingue, une créature dedans, super bien faite. C'est très bien joué. D'ailleurs, Sally Hawkins, qui a le rôle principal, est dans Paddington 2. Donc,
et elle a gagné Top Acting Honors.
Et elle a gagné le prix de la meilleure actrice, totalement mérité. Comme Call Me By Your Name a eu le prix du meilleur acteur pour Timothée Chalamet, un acteur franco-américain, dont on reparlera, je pense.
Donc sinon, on fait un rapide petit tour. Hein. Meilleure cinématographie, Shape of Water.
On dit meilleure photographie.
Moi, je dis cinematography.
Best cinematography.
Best cinematography. Ouais, on fait comme les.
Meilleur directeur photo.
Meilleur directeur photo.
Shape of Water. Donc, La Forme de l'eau en français, parce qu'il va sortir. Dans le titre, La Forme de l'eau.
Deuxième, c'était Blade Runner. Donc, on le dit quand même parce que. Roger Deakins, non, c'est pas n'importe qui.
Est-ce que c'est. Quand ils mettent runner-up, c'est pas le deuxième, à mon avis. C'était plutôt celui qui pensait gagner. Non ?
Non, runner-up, c'est pas
plutôt le.
Un runner-up, c'est un deuxième.
Ouais, ok. Ouais. Tant pour moi.
Phantom Thread, ça c'est la musique de John Greenwood.
Attends. Tu vas un peu vite. Meilleure musique, Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, pour Phantom Thread, qui est. Le prochain film de Paul Thomas Anderson, faut le dire quand même, parce que c'est quand même un des films les plus attendus de l'année.
J'avoue que j'ai été un peu rapide là-dessus.
Tu évacues un peu vite Paul Thomas Anderson, je trouve. Hein.
C'est vrai.
C'est quand même un des réalisateurs les plus talentueux.
Je manque au monde. De respect.
Voilà. Merci.
Oui, j'adore Thomas Anderson. Oui,
voilà. Mais acteur dans un second rôle, William Dafoe,
Florida Project.
J'avais très bon film.
Annonce de ça, mais je sais plus de quoi ça parle.
Très bon film. Ça parle de gens assez pauvres qui vivent dans des motels aux États-Unis. Donc normalement, c'est de la location au mois. Ils peuvent pas payer à l'année, ils peuvent pas être résidents en fait. Mais donc ils payent tous les mois, ils restent là. Mais tous les mois ne sont pas faciles, donc c'est pas toujours évident de payer à temps, etc.
Donc c'est très social, c'est un drame social alors.
Ouais, okay. Mais c'est un excellent film. C'était un des meilleurs films à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Mm-hmm. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et le réalisateur du film a aussi fait Tangerine, un film qui était tourné entièrement à l'iPhone, qui avait qui avait beaucoup fait parler de lui. Le film est dispo sur Netflix en Belgique d'ailleurs, je pense. Ou en tout cas, il l'était, faut vérifier. Mais donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir Florida Project à sa sortie. Alors je ne sais pas
quand
exactement, j'ai les dates quelque part dans mes mails, je cherche.
Mais on reparlera quand il faut.
Oui, tout à fait.
The Best Production Design, Blade Runner 2049.
Entièrement mérité.
Suivi de Shape of Water, oui, mérité.
Eh oui.
Meilleur editing,
meilleur montage.
Montage, c'est Dunkirk, Lee Smith. C'est
stop speaking in English, please.
Ah non, I want to speak English.
Meilleur montage, Dunkirk. C'est Dunkirk.
Très bon montage, il faut le dire, le montage du film est bon.
Excellent montage.
Donc, actrice en support, si on commence à traduire comme ça.
Meilleure actrice dans un second rôle.
Merci.
Laurie Metcalf pour Lady Bird. De Greta Gerwig. Oui.
Oui.
Je n'ai pas encore vu le film,
voilà.
Mais j'ai très très hâte parce que je sais que la bande originale du film est composée essentiellement de musique du Dave Matthews Band, un groupe américain que j'adore, un de mes groupes préférés en fait.
Je connais.
Donc voilà, je suis très curieux. Ils sont pas très connus en Europe pourtant.
Non.
Donc, voilà. Mais voilà.
Ils sont souvent des festivals, hein, à Robertaire et tout, ils passent souvent.
Ils viennent une fois tous les 5-6 ans en Belgique, en Europe, donc c'est assez rare. Donc voilà, bref.
Le film, le documentaire de Nesmarda Barda et JR, bien sûr, pour meilleur documentaire.
Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire oui, classique. Non. Mais...
Ah, là, je suis content. Vous le savez si vous avez lu mon article sur Cinéfilm. Get Out de Jordan Peele pour le meilleur scénario. Pourquoi pas ? Qui a remporté. Oui. Applaudissons-le, hein, avec un scénario original qu'il a écrit tout seul, sans se baser sur un livre ou quoi que ce soit. Il a réussi à faire une des grosses surprises de l'année au box-office. Et vraiment la claque. Donc oui, félicitations à lui. Film d'animation, c'est The Breadwinner.
tu mentionnes les deuxièmes cette fois-ci, je vais le mentionner, oui, parce que le deuxième, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh, donc le réalisateur de Sept psychopathes et Bon baiser de Bruges.
Excellent film.
Il avait eu le prix du meilleur scénario au Festival de Venise. Et effectivement, c'est un excellent film, j'ai adoré. Honnêtement, si l'année... Je suis sûr que je l'ai déjà dit, hein, mais si l'année se bouclait maintenant, Shape of Water de Guillermo del Toro et Three Billboards... Il serait dans mon top 5 de l'année, quoi.
J'ai hâte de le voir aussi celui-là.
Ils seront sans doute dans mon top l'année prochaine. Je l'espère.
Il y a des chances.
Je l'espère.
Donc après, donc, meilleure animation de Breadwinner.
Eh bien, je ne connais pas
ce film. Moi non plus. Meilleur film étranger, donc 120 battements par minute, égalité avec Loveless.
Mais deux des meilleurs films de Cannes.
On en avait parlé.
Mérité.
Best Actor, ça en a parlé. Timothée Chalamet.
Actrice
Sally Hawkins. Guillaume de Toro pour la réalisation et Luca Guadagnino. Égalité.
Ouais.
Et par contre, meilleur film, c'est Call Me by Your Name, on l'avait dit, de Luca Guadagnino. Et Florida Project, deuxième. Hein.
Ouais, c'est un bon palmarès, hein. Je trouve ça sympa.
C'est pas mal, c'est bien, bien torché. Bien.
Et oui, il n'y a pas de... Il y a pas de prix où tu te dis, oh merde, c'est un peu honteux, là.
Non, heureusement.
Donc c'est bien.
Il y a peut-être juste Get Out qui est discutable, mais parce que si l'autre est Big Missouri, il a l'air quand même très bien. Soit.
C'est différent.
On enchaîne avec le deuxième film de la semaine, changement d'ambiance, on n'est plus dans le film uniquement famille, on est dans le bon petit thriller policier classico-british aussi normalement, qui est Le Crime de l'Orient Express, un remake, parce que on l'a déjà vu, enfin ceux qui connaissent un peu les films, Hercule Poirot notamment, et qui connaissent un peu les films policiers savent que Le Crime de l'Orient Express, il y en a un tous les 5 ans qui sort environ, que ce soit en téléfilm, que ce soit au cinéma, que ce soit n'importe où. D'ailleurs, le dernier datait de 2010, télévision, avec David Suchet, qui est l'interprète...
Le David Suchet, ça date de 2010 ?
2010. C'est un des derniers qu'ils ont fait.
D'accord, ok.
Et donc, en fait, ils ont gardé le meilleur pour la fin.
Je sais que j'en ai vu un et que... Alors, j'ai peut-être pas vu...
Peter Ustinov, peut-être.
Oh là là,
oui, je suis assez casé sur le truc parce que ma copine est fana d'Hercule Poirot. Non, mais vraiment fana. Et donc, elle les a tous vus au moins 5 fois chacun. Et David Suchet... C'est son favori, c'est mon favori aussi. Mais pas la
je dis ça parce que je pensais avoir vu Le Crime de l'Orient Express avec David Suchet, mais si tu me dis que ça date de 2010, c'est pas possible, quoi. Donc je pensais que
Suchet,
c'était plus vieux que ça.
Peut-être que 2010 avec David Suchet. Voilà.
Oui, oui, mais je vois. Oui, et donc, j'ai vu une autre version.
C'est un film Cluedo, on peut le dire, hein, donc avec
un meurtre
dans un train, le train est bloqué par la neige, il faut qu'on trouve du coup qui est le tueur dans ce train. Il y a genre une dizaine de suspects. Qui sont tous joués par un casting, alors là, mais...
Et qui est le coupable ?
Qui est le coupable ? Bien sûr, c'est ça la question du film. Et donc là, ils ont mis un casting, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont lâchés. Hein,
je trouve que, avant de parler du casting, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un peu raté.
Le casting, tu veux dire ?
Non, pas le casting. Le fait... La résolution. Dans le sens où... je te l'ai dit avant la projo, et pareil pour les Dipty Nègres, je n'avais aucun souvenir de qui était le coupable.
Oui.
Et au milieu du film, ici, paf.
Avant même.
Oui, voire un peu avant la moitié, ça m'est revenu et je me suis dit, ah, mais oui, merde, c'est ça la résolution. Bah,
tu l'avais déjà vu,
Oui, mais il y a longtemps, il y a très longtemps. Et honnêtement, j'en avais aucun souvenir, tu vois. Mais il laisse. Enfin, de part des éléments de l'enquête, en fait, tu comprends qu'il n'y a aucune autre résolution possible que celle-là.
Exactement.
Et donc, enfin, je vais pas dire que ça me gâche la fin du film, ça m'a pas gâché la fin du film, mais c'est un peu décevant, quoi, parce que l'enquête s'arrête. Enfin non, c'est bien d'aller qu'il aille que Hercule Poirot aille jusqu'au bout, parce que comme ça, tu vois vraiment tous les liens, enfin, qui font qu'il arrive à cette résolution là.
Mm-hmm.
Mais malgré tout, tu restes un peu sur ta faim, quoi.
Oui,
je crois que c'était plus subtil dans l'autre version que j'ai vue.
Oui, mais je trouve aussi que la version avec David Suchet était meilleure. Soit, ça, c'est celle que j'ai vue dernièrement. Donc, en fait, le problème dans ce film-ci, il y en a plusieurs. Hein. Donc, le film est bon, hein. On l'avait dit, tous les films de cette semaine sont bons, donc il ne faut pas non plus croire que ce qu'on dit est directement cassé du sucre.
C'est pas mal, hein. On ne va pas dire non plus que c'est...
C'est pas mal, c'est juste que hein, c'est... pour ceux qui connaissent un peu l'univers d'Agatha Christie, d'Hercule Poirot, et qui connaissent surtout Le Crime de l'Orient Express, c'est une adaptation un peu... pas nécessaire, et d'ailleurs parce qu'elle est un peu moins bonne que certaines qui ont déjà lieu à la télévision. Pourquoi est-ce qu'elle est moins bonne ? Tout d'abord parce qu'ils veulent un peu moderniser tout ça, sans trop toucher non plus au matériel de base, au bouquin. Et donc, en effet, comme tu l'as dit, ils mettent certains éléments de l'histoire, ils les bouleversent. Par exemple, en effet, il y avait des flashbacks ou des visions d'une situation qui se passe avant, hein, donc il s'est passé quelque chose ou quoi, et on va nous mettre ces histoires-là au début de l'enquête, et normalement ils sont un peu vers la fin, et donc du coup on a déjà de sérieuses pistes avant même qu'on commence à faire l'interrogatoire ou autre, donc on se dit, mais en fait, je commence déjà à avoir une idée, comme tu dis, c'est un peu spoilé, quoi. Ouais. Et donc on attend un peu cette résolution, on sait très bien ce que ça va être, parce que c'est assez évident, en fait.
Beaucoup trop. Moi, je trouve que c'est le gros point faible du film.
Et ils essayent donc de moderniser un peu le bouquin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, forcément, ils mettent toute une séquence d'intro qui n'est pas dans le livre.
Qui est pas mal, hein, ça dit.
Qui est parce pas que mal, ça, qui construit ça place, le personnage.
Voilà,
rapidement.
C'est ça. Ça place rapidement Hercule Poirot dans son contexte. Oui. En gros, la scène d'ouverture, c'est qu'il résout une enquête, mais assez rapidement, quoi. Ça se passe en moins de 10 minutes, c'est plié, quoi.
Il résout
histoire qu'on sache, voilà, on a affaire à qui.
Et on voit ses tocs aussi, voilà, il met les œufs, bien mesuré et tout. Et il a peut-être le côté un peu plus bad boy dans celui-ci, puisque c'est quand même lui, finalement, avec sa stratégie, qui arrive à mettre le gars à terre.
Et ils sont malins, les Belges, hein.
Voilà, et donc David Suchet n'aurait jamais fait ça. et donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, mais doucement, attention, je suis pas en train de dire qu'il commence à foutre des points et tout, on n'est pas là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, pour un peu moderniser et surtout un peu diversifier les décors, parce que c'est vrai que faire un film d'une heure et demie dans un train, pour la télévision ça passe assez bien, mais au cinéma ça a tendance à être un peu confiné. Il y en a qui l'ont fait, bien sûr, hein, mais là il se dit, bon, j'ai envie de sortir, j'ai envie de mettre un peu d'air dans ce film, et donc du coup il y a beaucoup de choses qui se passent autour du train, au-dessus du train même.
Ouais, ouais.
Et la caméra fait un peu des mouvements dans tous les sens en dehors du train, c'est assez ingénieux, faut le dire.
Ouais, ça passe
mais
bien.
C'est pas bien fait.
Pas toujours.
Les décors sont pas toujours saisissants. Oh là là.
Le problème, c'est un peu les effets spéciaux, quoi.
On a l'impression.
Parfois, honnêtement, on voit les fonds verts.
Tu sais quoi? J'ai été me renseigner. En fait, moi, je croyais que tout le film était fait sous fond vert, à part les wagons.
Mm-hmm.
Donc, je pensais que les wagons étaient juste vrais dans un décor, quoi.
Ouais.
Et que tout le reste, tout ce qui est dehors du train, tout ce que tu veux, les gens qui marchent dans la neige, tout ce que tu veux, c'est du fond vert. J'ai été voir sur internet des photos de tournage, parce que je me suis dit, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et ils ont construit en carton,
oui, ça
toute
pas.
La montagne sur laquelle il y a le train, avec le tunnel, avec le bazar et tout, et donc l'endroit où Daisy Ridley mange avec, mm-hmm. Ils discutent, là dans le film on s'est regardé, on a dit oulala, c'est un peu, c'est un vrai décor.
Ah ouais.
Oui, mais c'est très bizarre. Donc.
Mais moi c'était plutôt ou alors c'est que s'il y a un souci avec la photo ou j'en sais rien, mais je trouve que des fois
les images,
ça passe bizarrement.
On a l'impression qu'il y a des
grosses
retouches.
C'est pas choquant dans l'absolu, hein, mais.
Non, mais le film, j'ai été voir aussi le budget du film est vachement moindre, et donc du coup,
Il a combien plus ou moins?
80.
80 millions.
C'est cher, hein, mais bon, pour ça.
Ouais, c'est un peu cher, mais. Non, mais tu vois qu'ils ont dû mettre du pognon dans les décors et les costumes quand même.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, ouais. Le casting aussi.
Mais ouais, le casting, ils ont dû. Il y a la moitié qui passe en salaire
ah, oui,
de comédien.
Donc, donc voilà, parce que dans le casting, on n'a pas encore dit, il y a Johnny Depp, il y a Michelle Pfeiffer, il y a Daisy Ridley, il y a Josh Gad.
Daisy Ridley, qu'on va revoir la semaine prochaine dans Star Wars.
Oui.
Je sais que tu.
Sa petite Daisy.
Il y a Penelope Cruz, Derek Jacobi aussi.
Qui est-ce qu'il y a d'autre? William Dafoe.
Et William Dafoe.
William Dafoe.
Exactement, dont on vient de parler.
Je suis sûr qu'on en loupe encore 2-3. Parce qu'il y a quasiment des.
Mais Judi Dench.
Judi Dench, voilà.
Et l'actrice dont j'oublie toujours le nom. Quelque chose Coleman. Qui joue dans The Night Manager. Excellente série, soyez en passant.
Je peux pas t'aider. Donc là, oui, voilà. Gros casting.
Oui. Gros casting.
Et ça a un peu des airs de films, tu vois, les films événements comme ça. Le film événement de TF1. Et donc, t'as tous les grandes stars qui sont là.
Le film choral.
Le film choral, tout à fait. Et donc, du coup, c'est vrai que Kenneth Branagh, par contre, là, on peut le dire, et c'est peut-être ce qui donne aussi à ce film un charme, et c'est peut-être pour ça qu'on le conseille, c'est qu'il est bon en Poirot.
Ouais.
Et vu que c'est lui qui est dans toutes les scènes pratiquement, il fait un peu le job, quoi. Hein, c'est son film.
Il parle un peu français de temps en temps, hein, pour rappeler qu'Hercule Poirot est belge, quand même.
Mais non.
Ouais.
Mais oui.
Avec un petit accent assez particulier, mais non. Honnêtement, il parle mieux français que Brad Pitt ne parle français dans Alien ou ne parle italien dans Inglourious Basterds. Hein. Non, Kenneth Branagh s'en sort quand même plutôt bien français.
Il a quand même sorti la phrase « I know everything about compromise, I'm Belgium ». C'était pas mal.
C'est vrai.
Donc, il s'est un peu renseigné. Enfin, il a juste vu qu'il y avait deux langues. Et voilà.
Merci Kenneth.
C'est tout. Donc voilà, une grosse partie de Cluedo très glamour, puisqu'il y a plein de stars et tout, et que voilà, c'est l'endroit est sympathique dans un train, le Grand Express, le luxe, les années 20 et tout. Mais l'enquête est un peu gâchée par cette mise en scène qui dévoile trop de choses en fait. Voilà, c'est plus
ou moins ça. Oui, en fait, il dévoile le. Est-ce que je peux dire le fil rouge d'une certaine manière? Un peu trop rapidement et grossièrement.
Non, tu peux pas.
Non,
pour ceux qui l'ont pas vu.
Mais je sais pas. C'est pas le fil rouge, c'est le nœud de l'enquête, quoi.
Il dévoile qu'il s'est passé quelque chose dans le passé.
Oui.
Et que ça a peut-être un lien.
Là, tu commences à trop en dire.
Ça a peut-être un lien avec une ou plusieurs personnes dans le train.
Voilà. Tu en dis beaucoup plus que ce que je ne
Putain
disais.
Putain de laine. Putain de laine.
Tu en dis beaucoup plus que ce que je n'allais dire.
Oui, oui, oui.
Mais voilà, je trouve qu'il dénoue, il dévoile le nœud de l'enquête un peu trop facilement et rapidement. Et grossièrement.
En fait, il vous montre assez vite où est-ce que vous devez regarder.
Oui.
Et
voilà.
Pour un film de justement, elle est vraiment une enquête policière. On a envie de pas savoir jusqu'à la fin. C'est ça qui est excitant, c'est d'essayer de deviner à la place de l'enquêteur. Et là, on se dit bon, en fait, on est avec Hercule, mais c'est
il
lui
montre
qui fait
quand même aussi les. Enfin, il montre beaucoup forcément les fausses pistes, etc. Mais bon, il y a quand même le truc évident qui fait que. Voilà.
Autre chose, je trouve que alors que pourtant le film téléfilm dure 1h30, hein, je trouve que les séances d'enquête étaient ultra rapides. Et donc c'était, on passe d'un personnage à l'autre, tac, 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 et donc il y a tout le temps des éléments qui nous arrivent comme ça toutes les minutes, et on est là, attends, donc le mouchoir, le bazar, le bidule, et on est quand même embrouillé par ce qu'il fait, et c'est sans doute aussi pour essayer de nous faire oublier tous ces indices qu'il nous balance.
C'est ça.
Et donc il va très très vite, tandis que le film avec David Fincher prend
vraiment son temps. Il a beaucoup de personnages, et en plus il y en a certains, au final on les voit pas tant que ça.
Oui.
Je veux pas dire qu'ils sont inexistants, mais bon, le personnage de William Dafoe... Il y a deux scènes, trois scènes.
Oui, oui, oui.
Bon, après, c'est difficile d'aller voir tous les personnages tout le temps. Il y a des personnages qui n'arrivent que dans le dernier tiers, quasiment.
Oui.
Enfin, bon, soit, c'est pas gênant, mais voilà, c'est parfois un peu laborieux.
Tout à fait. Donc voilà. Si vous avez jamais vu Le Crime d'Orient Express, je pense que vous allez aimer, parce que c'est quand même un twist qui est difficile à voir venir si on n'a jamais vu ou jamais
mais
lu.
Mais justement, honnêtement, je me suis fait la réflexion, je te dis, comme j'avais oublié et que je m'en suis rappelé. Après, c'est vrai que je l'ai su un jour,
oui, voilà,
même si je l'avais oublié. Je me dis que si quelqu'un qui ne l'a jamais vu, qui n'a pas connaissance de l'histoire, le voit, je pense qu'il pourrait griller
le twist.
La résolution.
Oui.
C'est pas un twist, c'est une résolution.
Oui, c'est un twist.
C'est une résolution, c'est pas un twist.
Oui, c'est une résolution.
C'est pas un twist.
Oui.
Je pense qu'il pourrait griller la résolution largement avant la fin, quand même. Hein.
Exact.
Donc, même si c'est pas déplaisant. Hein.
Voilà. Non, donc c'est ça. C'est un bon film à regarder aussi sans spécialement. Enfin voilà, comment dire. C'est un film du dimanche. Voilà.
C'est un film du dimanche.
C'est un film du dimanche.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est tout. Mais donc un brin décevant parce que la narration a pas été super bien travaillée. Enfin il y a un problème vis-à-vis de la narration. Il donne trop d'infos trop vite.
Mais
donc, voilà.
Au final voilà. Comme je dis, c'est pas déplaisant, mais est-ce utile?
Non.
Honnêtement, est-ce que tu verrais Kenneth Branagh, bon c'est l'idée, hein, c'est ce qui va se passer,
oui.
Développer une série de films d'Hercule Poirot, je pense pas que ce soit nécessaire.
Je pense que c'est même d'ailleurs confirmé.
Oui, 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 il va faire une... Non, enfin, le 2, il va pas faire le 2, mais il
mort
va faire
sur le Nil.
Mort sur le Nil.
Voilà, ça c'est clair.
Ouais. Ouais, pourquoi pas, hein, mais bon... Pour l'instant, je suis pas convaincu par l'utilité, la nécessité de.
Non, mais de nouveau, en fait, c'est...
De refaire cette saga sur grand écran. Bon, après,
c'est
chaque fois remettre au goût du jour et tout ça, mais... Quelle est vraiment la plus-value de ce film par rapport aux autres?
Non, ça n'a pas beaucoup de plus-value. Mais non, en même temps, quand tu vois toutes les offres qu'il y a, ne fût-ce qu'à la télévision, de crimes, de drames, de policiers, de trucs comme ça, ça rentre un peu dans les coutumes des gens. Et ces genres de films, sans risque, en fait. Hein, tu vas voir tous les deux ans au cinéma, il y a un nouveau Hercule Poirot.
Oui,
je pense que c'est un peu ça la démarche.
Tu sais ce que tu vas voir, tu sais où tu vas.
Et c'est contre-programmé aussi, c'est dire voilà, il y a plein de trucs super-héros qui sortent ce temps-ci, où il y a Star Wars et tout, ben on va mettre un petit polar.
On va mettre nos classiques.
On va mettre un bon petit polar que les gens de plus de X années vont aller voir.
Ouais.
Voilà, donc c'est aussi ça, à mon avis, l'idée.
Très certainement.
Soyons très clairs.
En tout cas, voilà, la Fox a misé sur un.
La Fox a misé sur.
C'est la Fox ?
C'est la Fox ?
C'est la Fox, non ? Oui, hein, c'est la Fox.
Je pense que c'est la Fox.
C'est la Fox. Elle a misé sur un cheval.
Enfin,
je vais pas
Fox.
Dire boiteux.
C'est la Fox. C'est peut-être bientôt plus la Fox.
Ah.
Ah. T'as envie de le dire, transition.
Non, vas-y.
Oui, parce que Disney c'est dans les journaux depuis un petit temps maintenant, mais de plus en plus, d'ailleurs, c'était encore hier à la une, sur pas mal de sites de divertissement. Disney est en conversation avec la Fox pour éventuellement racheter la Fox. Attention, pas juste racheter les films, ils veulent tout racheter. Donc ça coûterait environ 48,5 milliards
bah, écoute,
de dollars.
Je sors mon chéquier.
Je sors un chéquier pour racheter la Fox dans son intégralité, c'est-à-dire les films, la télé, les networks, Sky Sports, la Premier League, tout ce que vous voulez. Ça appartient à la Fox. Et donc, du coup, ils veulent racheter tout ça pour 50 milliards de dollars. Et grosso modo, ils auraient la propriété de toutes les propriétés de la Fox. Donc, c'est-à-dire que, bah, voilà, par exemple, Nouveau Poirot, ce serait Disney. Les Simpsons, Disney. X-Men, Disney.
X-Men, le retour chez Marvel.
Le retour chez Marvel. Donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, bah oui, ça deviendrait presque un monopole de la part de Disney. il resterait plus que Warner en face.
Ils ont Pixar, ils ont déjà oui. Disney,
Lucasfilm.
Lucasfilm, plus la Fox, ça ferait beaucoup. Mais bon, je pense que le Disney n'est pas le seul sur le qui-vive.
Oui, il y a Sony, il y en a d'autres, mais 50 milliards, c'est quand même énorme. Et Disney,
Sony peut se le permettre aussi.
Hein. Disney ont le confort financier et surtout l'audace de le faire, puisqu'on le sait déjà, ils l'ont fait pas mal de fois par le passé. Ils ont acheté Pixar, ils ont acheté maintenant Lucasfilm.
C'était combien? 4 milliards Lucasfilm, non?
Oui, 4-5, oui.
4 milliards, c'était déjà énorme. Hein. C'est déjà là, énorme. On parle de 50 milliards.
On parle d'une saga en fait. T'achètes Star Wars et Indiana Jones, c'est tout. Mais là la Fox, c'est quand même tout un catalogue, quoi. Ils peuvent vraiment faire plein de choses avec. Hein, donc,
oui, en plus, les networks, c'est surtout ça qui.
À mon avis, ils visent beaucoup aussi, c'est télévision et autres. Puisque, comme on le sait.
Niveau télé, Disney, ils sont pas mal non plus. Hein.
Bah, ils ont ABC et ESPN.
Ouais.
Donc si ESPN rachète Sky Sports,
et les chaînes Disney,
je peux imaginer. Donc en gros, oui, c'est surtout un deal.
Oh, si ESPN rachète la Sky,
il y a plus de télé pour le foot. C'est une télé. Et donc du coup, voilà, mais c'est pour vous dire à quel point, enfin l'ampleur du deal qui est en négociation. Bien sûr, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas, hein, mais si ça se passe.
Mais ils avaient déjà essayé il y a quelques semaines. Mm. Et enfin quand ils l'ont annoncé, on savait déjà que ça avait échoué. Bon, ici, on en reparle. Apparemment,
C'est plus sérieux qu'on le croit. C'est plus sérieux qu'on le croit. Donc, ouais. Il y a des grosses discussions. On va voir un peu ce qu'il en ressort. Mais apparemment, la Fox est vendeuse.
Eh ben.
Donc, pourquoi pas.
Ça promet.
Ça changera totalement l'univers du cinéma américain. Mais
oui, mais pas que en bien, je
Fox
pense.
Searchlight aussi, du coup.
Bah oui, oui.
Tous les films de la Searchlight.
Ouais. Searchlight, c'est donc la branche plus indépendant, ouais. Cinéma d'auteur de la Fox, entre guillemets. Hein.
C'est quand ils font un film à Oscar, ils le mettent dans la Fox Searchlight en général.
Voilà, c'est
genre Spotlight, c'était Fox Searchlight.
C'est possible.
Voilà, tous ces films-là. On parle d'ailleurs d'un nouveau film, ça n'a rien à voir avec la Fox. C'est un film français.
Mais oui, Cocorico. Attendu.
Très attendu.
Dont on a parlé.
On a même un concours qui se termine demain. Aujourd'hui, si vous écoutez le podcast. C'est Santa et compagnie. De Alain Chabat avec Alain Chabat, c'est donc forcément un drame français. Non, une comédie, je rigole. Une comédie où le Père Noël doit sortir en ville pour sauver ses lutins, c'est ça?
Ouais. Donc en fait, le Père Noël bizarrement ne vit pas en Laponie. Il vit, en tout cas peut-être dans un décor qui y ressemble, mais c'est dans le ciel, dans les nuages, quelque part.
Une galaxie très très lointaine.
Dans une galaxie très lointaine. Et il ne descend sur Terre que dans la nuit du 24 au 25 décembre,
mm-hmm.
pour donner les cadeaux aux petits enfants. Mais ces lutins, qui sont au bon nombre de 92 000, tombent malades. Et donc quand ils sont malades, il faut des médicaments. Et donc...
Ça a du sens.
Ben oui, makes sense. Mais donc le Papa Noël, il descend sur Terre, plutôt que prévu, 4-5 jours avant, je pense, mm-hmm. ou une semaine avant, soit. Et il débarque dans une pharmacie, font déjà son traîneau à des dératés, et donc il atterrit pas là où il voulait aller, mm-hmm. parce qu'il voulait aller chercher une plante spéciale, je sais pas quoi. Mais donc, il arrive, je te le donne en mille, à Paris.
À Paris.
Ah lui, du quel hasard. Bah oui.
Et il atterrit sur la Tour Eiffel.
Il apparaît. Non. Mais il atterrit sur le Moulin Rouge.
Ah oh, ouais. Il y a moyen d'être vachement grossier. Tu comprends directement.
Non, ouais. ça va.
Ok.
Mais et donc il débarque dans une pharmacie et quand il dit qu'il a besoin de vitamines ou je sais plus quoi
pour
92 000 personnes, tu penses bien que le pharmacien lui rit au nez.
Surtout habillé en Père
Surtout
Noël.
Qu'il a en Père Noël habillé en vert. Comme à l'origine.
Oui.
Parce que, oui, pour rappel, le Père Noël est devenu rouge.
Grâce à Coca-Cola.
À cause de Coca-Cola, exactement.
C'est ça.
Voilà. Donc, ça, c'est le pitch de départ. Forcément, il va devoir quand même trouver une solution. Il va rencontrer des gens au passage. Il va aller faire un petit tour en tôle aussi. Bah, tu penses bien, un énergumène pareil.
Surtout qu'avec sa coupe de cheveux.
Ça court pas les rues, ouais, avec sa coupe de cheveux qui fait très Père Noël.
Pour le coup.
Voilà, à la Chabat, ce sont ses vrais cheveux, il a pas de perruque. Hein. Donc, toutes des situations rocambolesques. Il va rencontrer des gens qui vont parfois l'aider, d'autres qui vont s'opposer à lui. Enfin, voilà. Plein de péripéties.
Un pitch original comme on les aime.
Oui. Ah oui, clairement.
Pour un film original aussi.
Oui. Mais un film comme Alain Chabat est le seul à pouvoir en faire en France. Oh,
attention, il a fait Marsupilami il n'y a pas longtemps, donc c'est son dernier film.
Je pense, oui, je ne l'ai toujours pas vu.
Là, mais ça sent un peu plus originalité quand même.
Oui, Bah, le Marsupilami, il fallait quand même oser.
Ah oui, il fallait oser, c'était pas, c'est pas nul en plus. C'était pas,
bah,
c'est
il paraît que c'est pas nul. Enfin, bon,
non, c'était pas nul. C'était pas fantastique.
Bah, non, ici, il réussit très bien son coup. Il y a plein de. En fait, il y a tout ce qu'on aime dans le cinéma d'Alain Chabat. C'est-à-dire, c'est complètement fou, c'est loufoque. Il y a plein de. C'est très drôle, que ce soit à cause de situation, de décalage, parce que le gars, forcément, il connaît pas les us et coutumes qu'on a sur Terre, ou à Paris. Le concept de l'argent, c'est totalement.
Voilà, abstrait pour lui.
Quoi. C'est abstrait, oui, exactement. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Mm-hmm. Donc voilà, il y a plein de. Il y a un décalage. Il y a de l'humour qui est créé par ce décalage entre la réalité sur Terre et la réalité du Père Noël. Mais donc il doit se confronter à ça. Il y a beaucoup de jeux de mots aussi. Il y a pas mal de choses dont. Il y a des jeux de mots avec Santa. Hein, Santa Barbara, Santa. Enfin bref, il y a.
Oui, okay. Enfin,
quelques petits trucs. Oh, ils sont pas tous toujours super fins.
Quelquefois, c'est nul.
Ah oui, ouais. Quelquefois c'est nul.
Ah là là.
Mais bien mieux que ce qu'on a vu récemment en comédie française. Donc voilà. Alors ce qui est, les effets spéciaux sont très bien. Il y a le monde du Père Noël qui est complètement fou et qui est très très réussi, très beau à voir.
Attends, mais la femme du Père Noël, c'est Audrey Tautou.
La femme du Père Noël, c'est Audrey Tautou. Oui.
Et elle, on la voit beaucoup dans le film parce que tu avais dit qu'elle restait à la maison.
Bah oui, elle reste à la maison, donc tu la vois au début puis à la fin.
Ah ok, voilà. D'accord, oui. Voilà,
hein. Ok. Oui, les effets spéciaux sont vraiment très bien. Tout ce qui est visuel, les costumes, etc. C'est très très réussi. Il y a pas mal de caméos assez sympas. Ou de mecs qui ont des deuxièmes ou troisièmes rôles. Style les mecs du Palma Show. Oui. Et Jean-Pierre Bacri qui a un second rôle. Pas un second rôle, hein, un caméo. Très réussi.
Exquis.
Parce qu'il est déguisé en Père Noël. Mais donc il joue un mec dans Paris qui est déguisé en Père Noël, tu vois.
Face au Père Noël, au vrai.
Voilà, face au vrai Père Noël. Et avec la joie de vivre de Jean-Pierre Bacri, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, non, j'ai passé un très bon moment. C'est pas le meilleur film d'Alain Chabat. Je préfère largement Mission Cléopâtre. Oui.
Bon, mais enfin. Topé Mission Cléopâtre, il va pas pouvoir le faire dans sa carrière.
Non, 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 non. Oui, voilà. Mais vraiment, dans la catégorie comédie française et autres et autres, Alain Chabat, c'est l'homme de la situation.
C'est con que ce soit ce week-end au Festival de Comédie de Liège.
Ah ben ça serait... Oui, oui.
Ça aurait pu. Ça aurait dû. Oui, non, mais c'est le genre de film...
Relever le niveau de ce qu'on a vu.
Donc une bonne comédie française, ça existe encore ?
Mais oui !
Oh, tu me rassures, dis.
Oui, moi aussi, je commençais à avoir...
On commence à plus y croire.
De sérieux doutes. Enfin, c'est même plus des doutes. Ça fait longtemps que... mon cœur se demande s'il va encore
aller voir le
film palpiter devant une bonne comédie française,
c'est
mais
c'est vrai que ça date.
Oh là là, ouais.
Tout le monde dit oh, je préférais l'époque de Louis de Funès.
Bah oui, c'était mieux.
Oui, c'était mieux avant. Voilà, on va faire les vieux.
Triste, les vieux cons.
Donc flopé de caméo, un film drôle, des effets spéciaux qui sont bons pour un film français en plus, tant mieux.
Oui.
Et Chabat.
Chouette casting, oui. Alain Chabat est
très star, quoi.
Bah, il est excellent en Père Noël. Ouais. Il y a aussi Golshifteh Farahani qu'on a vu dans le très beau film Patterson de Jim Jarmusch avec Adam Driver, a.k.a. Kylo Ren dans Star Wars. On retombe toujours sur Star Wars, hein. T'as vu ça?
Oui.
Et donc oui, Golshifteh Farahani qui est une actrice franco-iranienne, enfin iranienne en tout cas. Elle est très bien. Il y a Pio Marmaille aussi qui est assez sympathique.
Dans Star Wars aussi.
Non, Pio Marmaille, non, il n'est pas dans Star Wars. Il sera peut-être dans La Guerre des Étoiles, version française.
Dans Solo. Le film.
Non, dans Solo non plus.
Dans Duo,
mais donc voilà, suite. Pour Santa et compagnie, autre grande réussite de la semaine.
Et ben voilà.
Enfin, donc, grande réussite. Très bon film.
Après, voilà. Tu nous diras quel est le film de la semaine, mais on verra ça après. J'hésite, hein. Ce sera pas en tout cas le crime de Dante Express, je crois qu'on a compris, mais ça reste.
Et dis pas comme si je l'avais descendu non plus, c'est un film correct.
Non, non, c'est un film correct, mais par rapport au film de cette semaine, c'est pas le meilleur.
Par rapport à Paddington 2 et Santa et compagnie, c'est clairement, pas le meilleur. C'est en dessous.
Il est en dessous, donc cool pour les comédies, quoi.
Voilà,
une bonne semaine.
Exactement.
Et l'ambiance de Noël est bien parmi nous.
Oui.
I don't want a life for Christmas. Ensuite, alors, nouvelle actu.
Alors évite de me refaire Mariah Carey debout.
T'as vu
sur une table,
s'il te plaît. Pour la promo de Santa et compagnie, Alain Chabat a imité les clips de Mariah Carey.
Allez.
Où elle est assise dans un canapé, tu vois, avec
j'imagine ses grosses cuisses. Je vois pas exactement le
look de cachalot
en question, mais je vois bien le genre, oui.
Elle a un album de Noël qui sort. Non, un film de Noël. Un film de Noël aux États-Unis, juste aux États-Unis. Et donc elle est assise dans un canapé.
Je voulais voir ça sur internet.
Elle est vraiment assise comme un cachalot dans un canapé avec son affiche. Et elle dit Please come and see me this Christmas. Tu vois, vraiment comme ça.
Oh.
Et Alain Chabat a eu la même tenue habillé en Père Noël avec la tenue de Marie Carré, dans un canapé avec une cheminée, le même plan, quoi. Je crois qu'ils ont été dans le même studio, et il était là, please come and see my movie, Santa et compagnie. Donc il a encore un peu d'humour nul en lui, enfin l'humour
des nuls.
En lui, et c'est chouette de voir ça.
D'accord. Donc, ça donne envie, presque.
C'est quelqu'un qui reste là, qui reste consistant, contrairement aux trois frères qui avaient fait leur retour un peu raté,
où
la magie des trois frères n'était plus là.
Oui.
D'ailleurs, on ne les voit plus.
Voilà, pour Didier. Si, malheureusement. Soit.
Les trois frères.
On en reparlera. Non, pas les trois frères.
Oui, Didier, oui, mais pas les trois frères ensemble.
Non, ça non.
Ils étaient revenus pour le film, mais
oui,
après.
Oui, voilà. Mais c'est pas plus mal qu'on ne les voit plus.
Après, ils ont dit non.
Soit.
Quatrième actu.
Tu retombes dans l'anonymat. Quatrième actu.
Oui, parce que je vois qu'on.
Maman.
On est en train de blablater. Mais
ah oui.
On approche de l'heure, mon ami.
Presque, oui.
Donc, Bohemian Rhapsody. Rhapsody, c'est ça. Le film sur Freddie Mercury.
Oui, tu me demandes si on dit Bohemian Rhapsody.
Oui, parce que je t'avoue que je connais pas comment la prononciation de cette chanson. Je la connais, la chanson, mais je...
Oui, c'est Bohemian Rhapsody.
Bah, voilà. Rhapsody. Avec.
Arrête.
Donc...
Tout de suite. Tu ne fais plus ton accent anglais.
Freddie Mercury, donc le
ça
film. Le film sur Freddie Mercury, donc de Queen, qui a été mis en stop récemment, suite à Thanksgiving. Pourquoi ? Parce que Bryan Singer est en congé maladie.
Pauvre Bryan.
Et à mon avis, c'est parce qu'il va pas bien. Hein.
Il
va pas bien.
Il a peur pour ses fesses.
Il a été chanté, à mon avis. Il y a un journaliste qui l'a appelé, qui l'a dit 200 000 $ et je sors pas ça dans le New York Times.
200 000 $ et on dit pas que tu touches des petits garçons.
Alors il dit non, mais c'est bon, je vais prendre une pause carrière alors.
Ouais.
Ou il dit tu arrêtes de faire le film sur Queen ou je sors.
Il s'est peut-être battu avec. Parce qu'apparemment c'était quand même pas joyeux entre la production et lui ou. Enfin donc voilà.
Ça peut cacher des choses.
Le film est censé sortir en décembre 2018. Donc dans un an.
Ouais.
Je crois que c'est même la dernière semaine de décembre.
Un an après la prod, quoi, oui, logique.
Ouais.
Mais oui, donc le film est à l'arrêt pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer là-dessus.
Ça fait 2 semaines là que c'est.
On ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit article qui sorte dans le New York Times dans pas longtemps, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, et que quelqu'un reprenne le dessus. Enfin, reprenne,
voilà, que quelqu'un
reprenne le moulot.
Oui. C'était qui encore ? C'est Ron Howard qui a pris le.
Ron Howard qui a repris Solo.
Voilà. Ou bien vous avez appelé Josh Whedon pour le film sur Freddie Mercury.
Josh Whedon, ouais. Ou Christopher Plummer.
Tant qu'on y est.
Allez.
Non, mais ça c'est pour remplacer l'acteur. L'acteur, il n'y a pas de problème.
Oui, mais Christopher Plummer peut remplacer n'importe qui.
À partir de maintenant, oui.
Ouais.
De toute façon, on peut changer en digital la moustache hein, s'il faut de quelqu'un.
Certes.
On l'a déjà fait et ça donnait très bien. Dans un film récent. Et autre nouvelle qui là est un peu plus réjouissante. Hein, on quitte un peu ce spectre négatif en cette fin d'émission de Noël. Le Festival de Berlin qui sélectionne en ouverture le film de Wes Anderson.
Ice of Dogs,
qui est
son film d'animation avec les chiens.
Oui, c'était c'est lui qui avait fait le Fantastic Monsieur Fox. Hein, si
il avait fait bien. Fantastic Mr. Fox, exactement.
Et c'était très bien, c'était sympathique comme style.
Ouais. Et c'est pas la première fois qu'il fait l'ouverture, parce que The Grand Budapest Hotel avait fait l'ouverture de Berlin, donc il y a quoi, 3 ans, quelque chose comme ça, 2014, je pense. Et encore, est-ce que t'as le casting vocal du film ?
Non.
Parce que ça va encore être foudingue, je le sens.
Bah, il va y avoir déjà l'autre, là. Bruce Willis, éventuellement, ce serait pas mal. Tu te rappelles ? Bah oui, dans Moonrise Kingdom. Non, c'est pas dedans, film. Isles of Dogs.
Bizarre.
Enchaîne, tu vas pas laisser les gens
sans. Mais non, je n'ai pas
le bruit.
Non, mais je suis fasciné.
Ah,
mais oui, voilà, forcément, si tu...
On a dit qu'il fallait pas qu'on cherche pendant l'émission.
Ouh, t'as vu ça ?
Ouais.
Greta Gerwig, Scarlett Johansson, Frances McDormand,
Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray,
Liv Schreiber, Harvey Keitel,
Ken Watanabe.
Ouais, mais F. Murray Abraham. Oh, Ken Watanabe, j'adore Ken Watanabe. Yoko Ono, fieu.
Et Kev Adams ?
Non. Non. Tu te calmes.
C'est pas mal.
Mais c'est censé se passer au Japon, je pense, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a Ken. Mais il y a beaucoup d'acteurs japonais là qui font des voix.
Non. Bah, il faut
ah, ils ont tous des noms américains.
Quand même donner du travail à Edward Norton.
Chief,
hein.
Rex, Duke, Boss. Ouais, ah, j'adore Edward Norton. Moi, j'aimerais bien.
Il est toujours dans les films de Wes Anderson.
Oui, je sais.
Donc, voilà.
Mais je trouve qu'on ne voit pas assez Edward Norton au cinéma. Ouais, en tout cas, le film fait partie certainement de mes grosses attentes.
Les plus attendues
pour l'année prochaine.
Et ça se comprend.
Mais c'est Wes Anderson.
Oui, c'est clair.
C'est Wes Anderson, donc forcément, on attend Wes Anderson. Mais je trouve ça très bien qu'il fasse l'ouverture de Berlin.
Bah,
donc,
oui.
Se dire que le film. Oui.
On verra un peu ce que ça dit, mais c'est en tout cas un film excitant qu'on a envie de voir avec impatience.
Ben oui. Qui n'attend pas Wes Anderson ?
Tout le monde attend Wes Anderson.
Exactement.
Tout le monde attend. Oui, film numéro 4 de la semaine. Je propose qu'on fasse un mix. Donc on parle de celui-là et on parle un petit peu d'un autre film qu'on n'a pas pu caser dans les 4 cette semaine, mais qui est tout aussi important.
Oui, allez, on peut faire ça.
On a Suburbicon. Mais
tu m'énerves avec ton aïe.
Suburbicon.
Tu sais quoi, tu vas mettre ta main droite comme ça et je vais taper dessus chaque fois que tu.
Non, Thibaut, non.
Chaque fois que tu dis les choses pas correctement.
Pas comme hier soir, s'il te plaît. Suburbicon.
Je ne sais pas ce que tu as fait avec ta femme hier soir. Je ne veux pas savoir.
Non.
Bref, Suburbicon.
Suburbicon, donc de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore et tout un casting. Il y a même Oscar Isaac, je pense.
Il y a Oscar Isaac qui est. Dans Star Wars.
Qui est dans Star Wars. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe?
Mais ils sont tous dans Star Wars.
C'est terrible. Donc on aura Daisy Ridley, il y a John Boyega, il y a Détroit qui va ressortir en salle aux États-Unis.
Ah oui.
Donc en fait ils vont tous être dans le film en même temps en décembre. Ça va être fantastique. Donc le film, ça raconte l'histoire d'une petite vie paisible, hein, et grosso modo dans un banlieue résidentielle, il y a un homme qui cache une double identité. C'est ça?
Ouais. Exactement. Alors en fait, donc ça se passe vraiment dans les banlieues typiques américaines, avec toutes les mêmes maisons. Enfin tu sais, le quartier qui a été conçu
Break by break.
T'as l'impression que quelqu'un l'a pondu et qu'il est tombé comme ça, quoi. Bam! Toutes les mêmes baraques, avec les petits jardins, avec la petite barrière.
Un peu comme l'espèce de quartier à Watermal-Boisfort, là. Je sais pas si tu vois.
Écoute, je ne vais jamais. Les maisons sont les mêmes. Jamais à Watermal-Boisfort, je ne vois pas si j'irais foutre à Watermal-Boisfort.
J'étais au marché de Noël hier, si tu veux savoir.
Grand bien te fasse.
Grand bien te fasse.
Mais donc voilà, c'est la petite banlieue, tout se passe très bien, jusqu'au jour où il y a des noirs qui viennent. On est dans l'Amérique des années 60. Hein.
Ils veulent pas de ça, les Américains.
Mais non, alors c'est pas le sujet principal du film.
Ah.
Mais c'est un espèce de fil rouge, quand même, qui fait que. Comment dire.
Vas-y, Thibault, on a tout
mais
le temps.
Oui, hein. Oui.
C'est qu'on va laisser l'enregistrement.
Okay, ça va.
Alors, on va prendre un café, on revient.
Non, mais en gros. Avec ça, George Clooney va traiter du racisme, parce que sont deux adultes avec leur enfant. L'enfant, et ils sont dans la maison qui est juste derrière celle de Matt Damon, Julianne Moore et de leur gosse. Et donc les deux enfants vont devenir potes, machin. Voilà. Mais je te dis, cette histoire des noirs, c'est pas le sujet principal, mais ils vont être harcelés par tout le quartier. Les gens vont venir faire du bruit devant chez eux pendant la nuit et tout. Enfin voilà, tu vois le bazar quoi.
Oui, je vois tout à fait.
Hein, retour des fourches et tout, retour quoi, aux années Martin Luther King quoi. En gros, c'est un peu ça. Mais le sujet principal du film, c'est que Matt Damon, ben ce n'est pas le père idéal. Parce que Julianne Moore, qui interprète sa femme, mais aussi la sœur de sa femme.
D'accord.
Ben, disons que Matt Damon a une petite aventure avec la sœur de sa femme. Et il s'arrange pour que sa femme meure.
Ah, ben dis donc, dis.
Ben oui, pour aller pour avec sa belle-sœur, quoi.
Oui.
Voilà.
Ces hommes, hein, sont géniaux, les hommes. Ils sont tellement bien mis
les
au cinéma.
Les salauds. Et donc voilà, en fait, c'est un film qui a été écrit par les frères Coen.
Oui.
Chez qui sont habitués George Clooney. Hein. Ils ont souvent été avec. Enfin, il a souvent été avec les frères Coen.
Ils ont boire du vin dans le sud de la France ensemble. Régulièrement.
D'accord, si tu le dis.
Je ne
connais pas le planning de George Clooney et des frères Coen, mais je n'en doute pas. Donc forcément, l'esprit des frères Coen est hyper présent dans le film. Cela dit, c'est pas leur meilleur scénario.
Non.
Ça reste un peu léger, le traitement du racisme est intéressant, mais l'histoire, elle se suit sans peine, mais tu te dis, bon, voilà, enfin, je ne peux pas dire tout ça pour ça, tu vois, mais... T'es pas devant le scénar des frères Coen où tu te dis ah ouais, là c'était du lourd quand même, tu vois. Ce qui est un peu dommage, mais enfin, ça reste une petite histoire un peu sombre, un peu cynique, un peu noire.
À la Coen, quoi.
À la Coen typique. Donc voilà, ça c'est assez réussi.
Est-ce qu'on remarque que c'est pas les Coen qui réalisent?
Ouais, il y a peut-être moins de folie dans la mise en scène.
Oui, c'est ça.
Clooney, mais de manière générale, fait le job, tu vois.
C'est ça, on pourrait croire.
C'est pas le film de Clooney en tant que réalisateur que je préfère. Je préfère. The Heights of March, le film qu'il a fait avec Ryan Gosling, le truc sur la politique, tu vois. Il y avait The Good German aussi, enfin bref, il a fait quelques trucs. C'est pas un mauvais réalisateur du tout. Ici, c'est peut-être plus classique et peut-être plus anecdotique dans la mise en scène. C'est pas son meilleur travail. Après, t'as le duo Matt Damon et Julianne Moore qui est quand même assez savoureux. Il y a Oscar Isaac aussi que tu as cité, qui a un rôle très très sympathique.
Comme souvent, il choisit bien ses
rôles. Ouais, mais il a une dégaine dans sa façon de, enfin, sa façon de bouger, de parler, tout ça. On le voit, on l'a déjà vu quelques fois dans des films qui se passaient dans ces époques-là. Et il le fait super bien. Moi, j'adore ce type. Je trouve qu'on voit pas assez Oscar Isaac au cinéma.
Il est très bon.
Et voilà, je l'aime beaucoup. Et il y a une petite révélation. Noah Jupe, qui fait le fils du voilà de Matt Damon et Julianne Moore. Mm-hmm. J'ai bien aimé ce petit garçon. Voilà.
Bah voilà.
Les enfants, je pense qu'on l'a déjà dit aussi. C'est pas toujours évident au cinéma. Hein. Non. Mais là, il est pas mal. Voilà, il a une bonne énergie. Qui fait que ça s'est bien passé, voilà.
Ben écoute.
Donc, bon film de Clooney, pas le meilleur des frères Coen.
Mmh. Ok, donc si je résume bien, cette semaine, il y a deux gagnants et deux bons.
Mais on doit parler d'un cinquième film, tu vois. Non,
mais je sais, on parle d'un cinquième, on fera ça quand on fait le recap de la semaine.
Oui, il y a deux bons films et deux très bons films.
Voilà. Donc on va passer en revue les films de la semaine, puisqu'on arrive, largement dans les temps, chers amis.
Il est temps de conclure, là.
Il est temps de conclure, doucement. Donc, les films de la semaine, Santa et compagnie, on en a parlé. Excellent film, merci Chabat.
Voilà.
Les gardiennes, que nous n'avons pas eu l'occasion de voir.
Ah non, alors je l'ai loupé partout.
Tu l'as loupé partout. Restez vivant, un documentaire belge.
Pas vu non plus. Paddington... Je pense qu'il était au festival méditerranéen.
Je pense.
Hein.
Paddington 2, c'est le film de la semaine.
Bah oui, avec oui, Santa et compagnie. Mais peut-être plus Paddington 2 que Santa et compagnie encore.
Où est-ce qu'on mettrait pas Santa et compagnie, film de la semaine? En fait... pour quand même remercier Alain Chabat de sauver la comédie française avec une petite pépite en fin d'année.
Peut-être.
Oui, je pense que
peut-être.
Oui. Je pense que oui. Parce que c'est la fierté
en si Paddington mieux. Paddington 2
oui.
est mieux quand même. En fait, Paddington 2 est peut-être plus familial. Santa et compagnie, c'est peut-être un public un tout petit peu plus adulte, même si les plus jeunes aimeront quand même. Hein.
Disons Santa et compagnie. Allez, on aime la Chabat, on va lui envoyer un tweet. Non, on le met en film de la semaine.
Ok. Mais en vrai, c'est Paddington 2.
Mais oui, Paddington 2 est peut-être un peu meilleur, mais bon, voilà, c'est le deuxième, etc. Tu vois ce que je veux dire, Santa et compagnie, c'est nouveau, c'est original, soit.
Oui, oui.
Tueur, par contre. Et ça, c'est un film belge.
Le petit film belge de la semaine.
De François Troukens, et également co-réalisé. Hein, c'est un film qui est co-réalisé par Jean-François Hensgen.
Ouais. Ben, François Troukens, c'était un ancien braqueur, hein. Il a fait...
Il est passé au trou.
Il est passé au trou, exactement. Il a fait quoi? Il était condamné à 10 ans de prison. Il en a fait un peu moins, je pense.
Mm-hmm.
Et en prison, enfin déjà, avant qu'il soit embarqué, il avait des envies d'écrire, etc.
Mm-hmm.
En prison, il a pu mettre son temps libre à profit. Et donc, il s'est lancé dans l'aventure tueur. Il a écrit ce scénario... inspiré de Tueurs du Brabant, enfin inspiré, on en parle en tout cas, et il s'est lancé en tant que réalisateur. Voilà, il a écrit le scénar plus la réalisation, et donc c'est un